Vous présentez une partie des résultats d'une recherche que j'ai menée pendant plusieurs années, depuis les années 2000 jusqu'à 2006, sur le choix de l'école et plus précisément sur le choix du collège. C'est une enquête d'éthique qualitative, mais qui a été menée auprès d'un groupe assez important de familles, puisque j'ai pu interroger 137 familles en région parisienne, plus 23 familles à Londres, qui sont pour la plupart, mais pas seulement, des familles qui appartiennent aux classes moyennes ou aux classes supérieures, avec un petit groupe des familles des classes populaires. Mais j'avais par le passé beaucoup travaillé sur les familles des classes populaires, donc je n'ai pas souhaité interroger un groupe très, très vaste de ces catégories sociales. C'est donc des enquêtes qui ont été menées en milieu urbain, plus précisément en région parisienne, et dont quatre communes que j'ai choisies en fonction essentiellement d'une part de leur composition sociale, avec d'un côté des communes où il y a un entre-soi entre classe moyenne et supérieure, donc des communes plutôt favorisées, avec une forte présence de cadres profession intellectuelle supérieure, qui sont les communes de Rouen et de Vincennes, donc à l'ouest et à l'est de Paris, et deux communes à l'origine populaire, avec une forte proportion des familles, donc des milieux ouvriers, employés, et beaucoup, une proportion très importante des familles d'immigrés, mais avec des centres-villes gentrifiés, où il y a une présence importante des classes moyennes et de certaines fractions des classes supérieures, dont les centres-villes, et parfois dans certains quartiers, c'est le cas à l'ouest de Paris, de Nanterre, donc il y a limitrophe de Rueil-Malmaison, et à l'est, donc de Montreuil, limitrophe de Vincennes. Et donc j'ai procédé essentiellement par entretien avec donc des familles, familles entendues au sens d'un parent la plupart du temps, généralement la mère, donc à peu près 75% des cas, et ce qui peut poser problème par rapport notamment au travail que j'ai essayé de faire sur les interactions familiales autour du choix, parce qu'on a que le point de vue de la mère, mais qui ne pose pas problème par rapport à la problématique, puisque le choix du collège est très largement un travail dévolu à la mère, en tout cas dont tout ce qu'il suppose d'anticipation, préparation, etc., et pas seulement des travaux mentaux autour du choix. Et j'ai interrogé aussi donc à une fraction beaucoup moins importante des pères et parfois le couple. Mais dans cette enquête, nous n'avons pas du tout interrogé les enfants, même si il y a un chapitre de mon livre à venir sur ce travail qui traite de la négociation familiale, mais c'est plus comment les parents évoquent la façon dont ils ont essayé de structurer le choix de leur enfant, plus que tenir compte séparément du point de vue de l'enfant. Ça aurait été intéressant, ce n'est pas si simple au niveau du choix du collège. Je pense que c'est plus intéressant de le faire à des niveaux plus élevés. Mais bon, c'est aussi parce qu'on n'a pas souhaité se focaliser sur cette question-là. Si l'ouvrage était centré, la recherche avait été centrée sur la négociation familiale, il aurait fallu effectivement aussi pouvoir interroger les enfants. Alors, la façon dont j'ai choisi de présenter une partie des résultats seulement ce soir, c'est autour du thématique que choisir son collège, c'est le choix des autres. Et quand je dis le choix des autres, je l'entends dans deux sens qui sont complémentaires, même trois sens, on peut dire, qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas identiques. D'une certaine façon, donc, le choix du collège est le choix des autres, parce que, comme je vais essayer de l'analyser un peu plus en détail, quand on choisit un collège, on accorde beaucoup d'importance à qui fréquente ce collège. Donc, le choix des autres, c'est, seront choisis en fonction des qui est dans l'établissement en question. Mais sous ces termes, ça renvoie à un article que j'ai préparé pour Acte de la recherche en sciences sociales, mais qui n'est pas encore paru. Ça renvoie aussi à deux autres aspects qui sont un peu plus liés entre eux, qui est le choix des autres, c'est « je choisis comme les autres ». Donc, c'est une autre façon d'entendre le terme « choix des autres ». Et puis, une troisième façon de dire « les choix des autres », c'est qui est lié au second, c'est « je choisis avec les autres ». Et donc, c'est une autre façon d'envisager le choix. Et j'ai choisi cette entrée parce qu'elle recoupe plusieurs aspects que j'ai essayé d'étudier dans la recherche et sur lesquels je pense, notamment sur les deux dernières, peut-être plus que sur la première dimension, on a accordé jusqu'à présent assez peu d'éléments. Alors, autour donc de cette question, il y a plusieurs questions plus générales que je vais évoquer à travers les choix des parents, mais qui sont des questions en tant que telles et qui peuvent être posées de façon plus large. Une première question tourne autour de qu'est-ce que fait la qualité d'un établissement, parce qu'on est en train de parler de choix. Et quand on pense soi, on pense consommateur, et quand on pense consommateur, on pense, voilà, des choix en termes de qualité. Et une partie de ce que je veux dire s'explique par rapport à la définition que l'on a de la qualité de l'établissement. Et cette définition elle-même est liée à plusieurs facteurs. Un premier facteur, c'est la définition même de ce que c'est le bien éducation et comment on le conçoit, et ce qui, bien sûr, est très différent selon, par exemple, que l'on conçoit l'éducation comme un bien en soi ou que l'on conçoit l'éducation comme un bien positionnel. C'est déjà une importante différence et qu'on va retrouver dans la littérature. Par exemple, les sociologues se sont beaucoup intéressés à l'éducation comme un bien positionnel. Et dans les inégalités d'éducation, et ce qui est très souvent souligné, c'est les écarts. Et donc, beaucoup des travaux vont dire, oui, certes, aujourd'hui, les enfants des classes populaires accèdent tous au collège, mais comme les autres ont des niveaux bien supérieurs, eh bien, le fait d'accéder au collège n'a pas la même valeur. On l'utilise beaucoup, bien sûr, aussi au niveau du bac. Quelle est la valeur du bac à partir du moment où tout le monde, en proportion importante du classe d'âge, a le bac, etc. Donc on le conçoit comme un bien positionnel. Et c'est plutôt du côté souvent des philosophes, parfois des économistes, qu'on a plus une attention sur l'éducation comme bien en soi, et l'éducation pour une vie bonne, etc. Mais c'est aussi la qualité d'un établissement scolaire comme une question complexe autour de comment se construit la qualité et quels sont les facteurs qui entrent dans la qualité du bien éducation. On sait bien que comme dans tout ce qui est les métiers relationnels, c'est une co-construction déjà entre l'élève et l'enseignant. Donc, quelle est la part de l'élève, la part de l'enseignant, mais que ça se déroule dans un cadre précis qu'est l'établissement. Quelle est la place de l'établissement dans la fabrication de la qualité? Ça se construit aussi à partir des politiques éducatives données, puisque l'enseignement est donc très largement dominé, surtout en France, par la place de l'État et des politiques éducatives et maintenant de l'État central. Quelle est la place de ces politiques? Eh bien, on a un certain nombre de travaux, mais on n'a pas, en tout cas, une théorie définitive sur comment se construit la qualité et quelle est la part de chacun. Par ailleurs, les données disponibles sont très limitées, y compris pour les chercheurs et encore plus pour les enseignants. On n'a pas en France une évaluation des enseignants, donc on n'est pas en mesure de départager de façon globale, les bons et les mauvais enseignants. On a des inspections d'enseignants, on n'a pas d'évaluation d'enseignants. Et donc, on ne sait pas, la proportion d'enseignants qui sont très efficaces. Mais on a quelques enquêtes, quelques études, notamment l'IREVU a mené quelques travaux sur l'efficacité des enseignants. Donc on sait qu'il y a des enseignants plus ou moins efficaces en termes de réussite scolaire, mais on ne connaît pas leur proportion sur l'ensemble du système. En France, on n'a pas non plus, contrairement à un certain nombre d'autres pays, l'évaluation des établissements. Donc on n'a pas une idée précise de quel est l'apport de ce que les sociologues appellent l'effet établissement sur l'ensemble des établissements. On a pour les lycées des résultats au baccalauréat complétés par des indicateurs que le ministère a rajoutés, donc la direction de l'évaluation et programmation, j'oublie toujours le nouveau nom, l'ancienne direction de l'évaluation prospective, donc a ajouté des indicateurs pour mesurer la valeur ajoutée des établissements qui eux-mêmes ont fait l'objet des critiques de la part des sociologues. Donc, voilà, il y a une incertitude autour de la qualité qui se double en France du fait de la faible information qui est distribuée autour de ces éléments au niveau local. On a en France une tradition d'éloignement des parents de l'école, ce qui fait qu'ils ne sont pas très informés, ni très associés. Et ce qu'ils savent, ce sont les résultats de leurs enfants, mais ils ont peu d'informations sur le fonctionnement des classes, sur les projets, sur les évolutions. Et donc, ça contribue aussi à cette incertitude sur le fonctionnement des établissements. Par ailleurs, et renvoyons là plutôt aussi à des réflexions des travaux de sociologie économique, les parents en France ont peu de dispositifs de jugement sur la qualité. Mais l'éducation n'est pas le seul bien dont la qualité est incertaine. Si la sociologie économique récente montre quelque chose, et qu'il y a beaucoup de biens, bien évidemment, dont la qualité aussi est incertaine. Mais il y a des prescripteurs sur cette qualité. Alors, en France, il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, comme en principe, on a été dans un régime d'écart scolaire. Les parents n'étaient pas supposés choisir leur établissement public, en tout cas. Et donc, il n'existe pas des dispositifs institutionnels destinés à appuyer, à aider ces choix. Les palmarès, ça existe parce que la presse les a lancés, c'était le monde de l'éducation qui les a lancés en premier au début des années 80, mais c'était une initiative qui ne venait pas de l'État. L'État s'est greffé dessus pour rajouter les indicateurs de valeur ajoutée. Et donc, il n'existe pas des guides, il n'en existe pas, parce qu'il commence à en exister, des guides, beaucoup sur, comme il existe pour les restaurants, eh bien, il n'y avait pas autant sur les établissements scolaires que vous pouviez consulter, et encore moins, bien évidemment, pour les collèges. Il existe bien des guides sur les prépas, il existe des guides sur les universités, sur les lycées, puisque vous avez l'indicateur du bac, vous trouvez des choses. Sur les collèges, déjà, quel indicateur on prend? Alors, depuis quelques années, je crois que ça fait 3 ans maintenant, il y a certains hebdomadaires qui publient aussi un guide pour les collèges, donc, mais c'est un phénomène très récent et très incertain, c'est extrêmement impressionniste que l'on présente au niveau de chaque établissement. En tout cas, on n'a pas des étoiles Michelin, etc., pour les établissements comme on va les présenter. On n'a pas donc accès facilement aux informations. En Angleterre, par exemple, les évaluations des établissements sont mises sur les sites internet des établissements. En France, on n'en a pas. On n'a pas ces éléments disponibles et vous ne pouvez pas appeler l'inspection d'académie pour dire voilà, je voudrais me renseigner sur les collèges, pouvez-vous me dire quel est le meilleur collège de Vincennes, etc. Vous n'allez pas obtenir comme ça cette information. Les parents se méfient beaucoup des jugements internes, des jugements que pourraient leur donner les prescripteurs comme les chefs d'établissement ou éventuellement les conseillers d'orientation. dont ils pensent qu'ils cherchent plutôt à limiter leur choix qu'à ouvrir l'éventail de choix, en tout cas à l'intérieur de l'enseignement public. Donc il n'y a pas tout un ensemble des dispositifs de jugement, et cela expliquera la deuxième partie de ma présentation de pourquoi on choisit en faisant comme les autres, avec les autres, etc. Mais je voulais mettre ça un petit peu au clair. Donc, d'abord, autour donc, de la première idée qui est très liée sur l'incertitude autour de la qualité des établissements, pourquoi le choix de l'établissement et le choix des autres? Eh bien, ça renvoie donc très fortement aux croyances donc, qu'ont les parents sur le fonctionnement des établissements scolaires et à leur très forte croyance sur le fait qu'au niveau collège, parce que c'est moins vrai du lycée, où on accorde plus d'importance à l'offre éducative du lycée, au niveau du collège, les parents, majoritairement, ça c'était, je m'attendais à avoir un peu des éléments dans ce sens, mais c'était beaucoup plus important que je ne l'imaginais au départ de la recherche, c'est que la très grande majorité des parents, mais vraiment de l'ordre des 90%, m'ont dit un collège, c'est qui va au collège. Et donc, il y a énormément des citations comme celle-ci que je vais vous lire, qui est d'un parent plutôt d'un milieu défavorisé qui parle assez simplement, mais il y a des parents très sophistiqués qui vont évoquer, et là, les sociologues ils vont parler de responsabilité, parce qu'ils vont évoquer beaucoup les déterminismes sociaux en s'appuyant, y compris parfois directement sur les résultats des travaux sociologiques, soit dont ils ont entendu parler dans la presse, parce qu'ils ont suivi des formations en sciences humaines et sociales. Alors là, je vous lis une citation, donc c'est une secrétaire qui parle, qui dit « Ce sont les enfants qui font la différence. On met les élèves de Neuilly à Nanterre, on n'aura pas les mêmes résultats au bac. Pourtant, il y aura les mêmes professeurs. On met les élèves de Nanterre à Pasteur, qui est le meilleur lycée public de Neuilly, il n'y aura pas les mêmes résultats. Pourtant, il y aura les mêmes professeurs. C'est quand même là où il y a les familles les plus favorisées, donc sur Neuilly ou sur Sceaux ou sur Saint-Cloud, que les résultats baccalauréats sont mieux. Ça vient d'un livre. Et comme ça, c'est à longueur des entretiens, on a des parents qui répètent, un collège, c'est qui va au collège. Alors, une partie donc de cette vision, c'est parce que les économistes appellent des biais d'information. On se focalise sur les élèves parce que les élèves, c'est les éléments les plus visibles dans les établissements. D'ailleurs, les plus visibles étant les enfants d'immigrés, notamment quand ils appartiennent aux minorités visibles, qui constituent une sorte de signal sur la qualité des établissements. Donc, les parents, ayant peu d'éléments pour se renseigner sur la qualité des établissements, et bien beaucoup de parents, et ça c'est notamment les mères qui font ça, c'est vraiment un travail maternel, et bien m'ont décrit comment elles ont fait systématiquement les sorties d'école, comment elles regardaient qui allait à l'école, qui était le public de l'école. Ça c'est le plus visible, ça c'est le plus direct, vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire. Vous pouvez voir qui va à l'école du centre de Nanterre, qui va à telle école de tel quartier de Rueil, etc. Donc c'est l'indicateur le plus visible, et donc ça renvoie à ce déficit d'information que l'on peut avoir sur les établissements scolaires. C'est un premier élément qui entre en ligne de compte. Mais en fait, entre d'autres éléments en ligne de compte, c'est d'une part, parallèlement à la forte croyance dans les faits publics, la faible croyance dans les faits établissements. Alors, à quoi est associée cette faible croyance? D'une part, au poids des déterminismes sociaux, dont beaucoup de discours des parents ont été non pas du type de dire non mais les enseignants sont très mauvais ou les enseignants ne font pas leur travail, etc. Ça a été de dire, eh bien, les enseignants sont très bons, d'ailleurs les résultats étaient plutôt très positifs à l'égard des enseignants. On ne met pas des sous-enseignants dans les banlieues, c'est un peu comme dans la suite de la citation que je viens de vous lire, il y a les mêmes enseignants à Neuilly et à Nanterre, même à Nanterre parfois ils sont meilleurs, ils sont plus militants, plus impliqués, ils font plus de choses, etc. Ils se bougent davantage, sont plus novateurs, mais le poids des élèves défavorisés est tel que ça plombe la classe. Face à des niveaux tellement faibles, l'enseignant ne peut pas grand-chose. Face aux énormes difficultés sociales, familiales, l'enseignant passe beaucoup de temps à régler ses problèmes et ne peut pas se centrer sur les apprentissages. Face à l'ampleur des problèmes de discipline, les enseignants peuvent pas faire face. Et les parents ont raison et ils ont tort. Ils ont raison puisqu'il y a beaucoup de travaux sociologiques qui montrent que, bien sûr, l'effet public est très fort. Le school mix effect, c'est grosso modo évalué dans les enquêtes. Le meilleur prédicteur pour savoir comment seront les élèves à la sortie d'un établissement, c'est savoir comment ils étaient à l'entrée. Ça joue de l'ordre des 75 à 80% selon les études, donc l'effet public est massif dans la recherche. Il y a quand même une place pour l'effet établissement qu'on évalue, donc 20-25% des enquêtes qui ne sont pas comparables nécessairement d'un pays à l'autre, d'un niveau à l'autre, enfin, grosso modo. Mais les parents vont plus loin, ils n'accordent même pas ces 20% souvent à l'effet établissement, notamment dès lors qu'il s'agit de l'enseignement public. Parce qu'un discours qui est plus présent chez les parents des classes supérieures est plus présent chez les parents qui eux-mêmes travaillent dans le secteur privé, qui appartiennent plutôt aux fractions économiques des classes supérieures, hautement dotées en capital économique des classes supérieures. Ils ont une plus forte croyance dans un effet établissement dans l'enseignement privé. Ils disent dans l'enseignement privé, c'est une véritable organisation, c'est pas comme l'école publique, c'est pas une organisation. Il y a un directeur qui est un vrai directeur, qui a des vrais pouvoirs, à la fois pour recruter ses enseignants, et donc qui font équipe, pour sanctionner ses enseignants, les contraindre de telle ou telle façon à travailler, pour sélectionner leurs élèves et donc ils sont plus convaincus qu'il y a un effet établissement dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public où le discours de cette fraction-là des parents en particulier c'est on est face à des atomes libres dont bien sûr il y a des très bons enseignants mais partout à Nanterre il y en a deux qui sont très bons et peut-être à Neuilly il y en a quatre qui sont très bons etc. Mais ce qui joue, c'est qu'à Neuilly, les bons élèves font pression et créent un cercle vertueux, alors qu'à Nanterre, les mauvais élèves font pression, et même si l'enseignant est très bon, il est pris dans un engrenage où il ne peut pas, s'en sortir. Donc il y a cet effet-là, un effet qui est un peu plus atténué, mais malheureusement, je dirais à peine, chez les parents qui sont soit eux-mêmes enseignants, donc il faut quand même qu'ils défendent un peu la corporation, soit qu'ils sont proches du milieu des enseignants, des milieux intellectuels, et qui parlent un peu plus d'un effet établissement, mais de façon très modérée, parce que le discours majoritaire, c'est quand même celui d'un très grand déterminisme social par la concentration d'élèves en difficulté, et un déterminisme à l'autre bout de la chaîne par des élèves, la concentration d'élèves favorisés augmente les chances pour que tout le monde soit meilleur. Donc, ces éléments-là interviennent fortement, intervient aussi, bien sûr, un discrédit des politiques éducatives, les sentiments, par exemple, d'un échec d'un certain nombre de politiques comme les zones d'éducation prioritaires, comme un certain nombre d'actions, l'idée qu'on a essayé beaucoup de choses, parents qui disent on a essayé beaucoup de choses, ici à Nanterre ou à Montreuil, on a fait des tas de choses, la mairie, tout le monde soutient beaucoup, le conseil général, on a énormément d'argent, etc. Et vous voyez, les résultats, ça ne s'améliore pas, il y a toujours cet effet public. Donc tout cela va créer, donc renforcer ces croyances dont une école, c'est qui va à l'école. Alors, Cet effet est renforcé par différents éléments que j'ai beaucoup étudiés dans mon travail. Un premier élément qui est intéressant, c'est la façon dont on perçoit le rapport au savoir et l'autonomie intellectuelle, mais aussi l'autonomie sociale des enfants. C'est-à-dire que j'ai constaté une différence dans les réponses aux entretiens entre les parents qui percevaient les enfants comme étant très influencés par leur environnement, les enfants en général, ou leurs propres enfants en question, et les parents qui défendaient davantage l'idée d'une certaine autonomie intellectuelle et sociale de son enfant. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que les filles sont du côté de l'autonomie et les garçons sont du côté influençable. Donc le discours est... on présente beaucoup plus souvent les filles comme étant autonomes et les garçons comme étant influençables. Donc il y a des théories genrées par rapport à la socialisation, sans qu'il soit toujours facile de savoir si c'est une vraie croyance dans la plus grande maturité, autonomie intellectuelle et sociale des filles, ou une façon déguisée de surinvestir la scolarité des garçons en disant qu'il est influençable, on le retire de l'école du quartier parce qu'on va l'envoyer dans tel ou tel établissement, la fille elle est autonome, elle résistera, etc. Et c'est une façon de la laisser dans l'école du quartier. Il y a donc ces éléments de croyance dans l'autonomie qui renvoient aussi aux différentes fractions des classes. Plus on est dans le pôle intellectuel, plus on croit à l'autonomie intellectuelle et au savoir comme un rapport avec l'enseignant. Plus on est plutôt du côté du pôle économique, plus on est quand même dans l'effet de l'environnement et l'importance très forte accordée à l'environnement et donc à surestimer l'effet public par rapport à ce que montreraient les recherches. Mais interviennent aussi d'autres dimensions qui sont les visées des parents. Plus les attentes des parents sont fortes en termes des résultats et des résultats en termes de l'éducation vue comme un bien positionnel, plus bien sûr ils vont être attentifs à l'effet public. C'est-à-dire que les parents, ils sont à la recherche vraiment qu'il ait les meilleurs résultats possibles qu'il peut avoir et donc tout ralentissement, tout élément de ralentissement va intervenir comme un élément tout à fait négatif. Donc ça a un effet fort. Mais j'ai essayé de montrer que les parents n'ont pas que des visées instrumentales, mais également des visées expressives. Et donc c'est aussi les parents qui sont très craintifs par rapport à la sécurité, au bien-être de leurs enfants, qui décrivent leurs enfants comme étant très sensibles, très affectés par leur environnement. À nouveau, nous n'avons pas interviewé les enfants, donc il est impossible de savoir si c'est les enfants qui sont comme ça ou les parents qui les inventent comme ça, ou si c'est bien sûr une interaction entre les parents qui les inventent et l'enfant qui réagit, etc. Mais en tout cas, plus on va dans ce sens, plus c'est pour dire, voilà, on va quitter l'établissement du quartier pour aller vers le privé, vers un autre établissement public, on va déménager pour éviter d'aller vers le collège hétérogène du quartier en fonction de l'importance qu'on accorde à ces visées expressives en lien avec la personnalité de l'enfant. En revanche, les parents qui ont des attentes moins élevées au niveau du collège, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être très exigeants au niveau du lycée ou plus tard dans la scolarité, ce qui est plus vrai des classes moyennes et supérieures intellectuelles, qui se disent souvent, d'une certaine façon, ce qu'elles se disent, c'est jusqu'au collège, je peux faire confiance à mon propre capital culturel, même si le collège n'est pas génial. Voilà, les termes, c'est un bon petit collège de quartier, voilà, pas extraordinaire, mais bon. Pas dire que non plus que ce soit le ghetto. Donc, parce qu'on fait confiance à ce qu'on transmet dans la famille, donc mère hautement diplômée, avec du temps pour transmettre leur capital culturel et le montrer important, parce que pour le capital culturel, ça ne se transmet pas comme le capital économique, il faut du temps et beaucoup de temps pour le transmettre. Donc, qui font confiance, mais qui ont aussi parfois des visées moins élevées et qui se disent, bon, je ne vise pas le meilleur établissement, je ne suis pas en train de préparer maintenant l'entrée à Polytechnique, donc moi, ce que je vais, c'est un niveau qui permet à mon enfant de bien s'insérer à la société. Donc, ces parents-là feront donc des choix différents en accordant moins d'importance à la présence des autres. Qui pourrait jouer un effet néfaste. C'est aussi les parents qui ont des visées expressives dans lesquelles ils accordent beaucoup d'importance au bonheur de leur enfant et à la relation. Et donc là, à nouveau, on va trouver des familles qui appartiennent plutôt au pôle intellectuel, qui exercent elles-mêmes des métiers relationnels, donc c'est des parents travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, etc., qui accordent beaucoup d'importance à la dimension relationnelle et qui accordent beaucoup d'importance à cette interaction avec les autres, qui ne souhaitent pas couper leurs enfants des copains du quartier et donc qui se disent, bon, ben voilà, il y a certainement des enfants qui, effectivement, ont des problèmes, des difficultés, mais comme en plus ils croient à la capacité de discernement de leur enfant, donc il ne va pas se mélanger avec ceux qui ne sont pas comme lui ou comme elle, de toute façon. Donc ils vont faire des choix qui vont consister à rester éventuellement dans les établissements du quartier. Interviennent aussi les valeurs qu'ont les parents et notamment la vision qu'ils ont de ce que c'est l'intégration. Et donc j'ai distingué de façon idéale typique deux modèles d'intégration, un modèle que j'appelle l'intégration par cloisonnement et un modèle qui est l'intégration par côtoiement. Alors ceux qui sont dans le modèle de l'intégration par cloisonnement sont des parents qui pensent qu'être intégré, c'est être intégré dans son groupe social. Chaque personne doit s'intégrer dans un groupe et une société bien intégrée, c'est une société qui réussit d'une façon ou d'une autre et sur un mode hiérarchique très souvent, à intégrer quand même tous les groupes. Et donc, ces parents-là font des choix très radicaux. Je me souviens d'un parent médecin qui parlait, il me disait, voilà, l'école, c'est comme la médecine, il faut séparer les maladies infectieuses des autres, donc c'est un discours très carré. Et voilà, donc moi, mon enfant, il y a des questions qu'il se mélange avec tous les autres indésirables, etc. C'est très bien qu'ils soient entre eux, cette école, ils sont des notaires. Je suis sûre que pour ces enfants-là, ça convient très bien. D'ailleurs, je suis sûre que les parents sont très contents. Mais moi, c'est pas pour moi. C'est pas l'école que je cherche pour mes enfants. Moi, c'est pas mon milieu. Et donc, les parents qui l'affichaient carrément d'eau. Très souvent, c'est des façons plus féminisées, bien évidemment. Et les parents qui sont dans les côtoiements, qui sont beaucoup plus dans l'idée, il faut se mélanger quand même avec les autres, tout en prenant toutes sortes de précautions sur la façon dont on va se mélanger avec les autres. Un autre qui est souvent rendu très abstrait, donc qui est présenté parfois à l'école primaire, on se mélange avec le noir, le blanc, le handicapé, etc. Un autre qui, avec qui on évalue de façon très attentionnée jusqu'où peut aller le mélange, est-ce qu'on les invite ou non à la maison, est-ce que si ça commence à devenir le petit copain qui est plutôt noir, est-ce que là on n'est pas en train de basculer de l'autre côté du mélange qu'on ne souhaite pas, etc. Donc, mais ces parents-là feront des choix différents par rapport aux autres. Pas dans la même logique. Donc ça c'était un premier aspect que je voulais évoquer sur l'importance que jouent les autres dans le choix de l'établissement, notamment du collège. Et je pense que si on ne tient pas compte de cet élément-là, tout un ensemble des discours que l'on tient au niveau politique sur la qualité et sur le fait que les choix seraient fondés sur la qualité, manquent leur cible si on ne tient pas compte à quel point la qualité est étroitement liée à qui est dans l'établissement, dans l'esprit des parents et dans la façon dont ils construisent la vision des établissements. Y compris, par exemple, l'idée que parfois pour rendre certains établissements attrayants, on s'est dit on va les doter d'un certain nombre d'options. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a deux phénomènes qui ont lieu. Soit ça n'a aucun effet, parce que même si on met dans le collège du centre de Montreuil les options les plus prestigieuses, etc., les parents vont se dire de toute façon, ça vaut rien vu que le public est ce qu'il est, donc ça ne servira à rien. Soit ça va se transformer simplement dans la petite classe qui va recruter tous les bons élèves qui vont être dans l'option musicale, européenne, chinois, etc., qu'on va mettre dans la même classe, et ça ne va pas créer du mélange à l'intérieur des établissements. Et donc, d'une certaine façon, ça pervertit même l'idée d'offre éducative. Et souvent, quand j'en discute avec les enseignants, je leur dis, c'est vous-même qui participez à l'instrumentalisation de ce que c'est l'éducation, puisque si le choix du chinois ne sert qu'à être dans la bonne classe où se trouvent les élèves qui font du chinois, si la classe européenne remplit les mêmes choses, etc., eh bien, vous êtes en train de créer un drôle de sentiment de ce que c'est l'Europe chez les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ça a aussi pour moi des conséquences, y compris sur un plan plus général. Mais dans la deuxième partie de ma présentation, je voudrais insister aussi sur une autre dimension du choix des autres, qui est le fait que l'on choisit comme font les autres et avec les autres. Alors, dans l'idée que l'on choisit de la même façon que font les autres, intervient le fait que chez les familles que j'ai interrogées, on observe qu'il n'y a pas nécessairement une reproduction des habitudes par rapport à leur propre famille et donc dans une transmission intergénérationnelle. Les cas les plus flagrants concernent l'enseignement privé, par exemple Montreuil et Nanterre sont deux villes communistes ou apparentées communistes, tradition forte d'implantation du Parti communiste. Donc j'ai interrogé un certain nombre de militants communistes qui, dans leur famille, il n'y a aucun membre parmi leur famille, ni eux-mêmes, qui aient fréquenté l'enseignement privé. L'enseignement privé apparaissait comme quelque chose de totalement tabou. Mais ce sont des parents qui, pour beaucoup, m'ont dit, dès lors que mon enfant aura un problème, j'irai vers l'enseignement privé. Donc, ils sont dans des comportements, des ruptures, si l'on veut, par rapport à leurs habitudes de classe, pour le dire d'une façon un peu brutale et rapide. Parce que les conditions, pensent les parents, ont changé, et ce qui fait que, bien que idéologiquement opposés au privé, et même que souhaitant en tant que citoyen qu'il n'y ait pas de privé éventuellement, ils se disent, à partir du moment où j'ai cette possibilité de recours pour mon enfant, eh bien, en tant que parent, je le ferai. Donc, on est dans des situations dans lesquelles on n'est pas dans la reproduction des pratiques antérieures des générations qui les ont précédées, ni même de leur propre trajectoire en tant que parents. Ce sont aussi, souvent en région parisienne, plus peut-être qu'ailleurs, des familles qui sont déracinées par rapport à leur famille d'origine. On a une très forte mobilité géographique dans la région parisienne. Quand il s'agit du choix du collège, eh bien, on ne peut pas demander à un parent proche entre les collèges ici de Nanterre et de Rueil, eh bien, qu'est-ce que tu penses de tel collège par rapport à tel autre, etc. Et donc, ça veut dire que le groupe de référence, pour parler comme Merton, devient véritablement plutôt le voisinage, l'entourage local. Alors, de différentes façons, ce que l'on constate, c'est que plus on est dans des milieux homogènes, plus cet entre-soi crée une pression dans un sens dans l'autre. Le plus fort qu'on a observé dans le cadre de l'enquête, c'est à Rueil, où existe une petite partie des bâtiments qui constitue une sorte de gated community, un ensemble de maisons fermées. Et là, dans cette enceinte, on a des familles qui, par ailleurs, ont des trajectoires assez différentes et qui sont des familles qui ont un capital économique élevé, parce que ce sont des maisons très chères, mais qui sont des familles qui, pour beaucoup, n'ont pas un niveau d'éducation très élevé et qui ont parfois des parents qui étaient plutôt d'un milieu employé, etc., mais qui ont connu une trajectoire, une mobilité ascendante. Mais c'est un espace fermé dans lequel s'exerce un contrôle social très fort. Et d'ailleurs, il y a un discours permanent sur les enfants qui jouent dans la rue, etc. On se sent quasiment comme dans les quartiers HLM que j'avais étudié autrefois, ce type de discours sur les enfants de milieu populaire. Mais il y a aussi une pression normative très forte. Alors, on a interrogé 20 familles dans ces quartiers. 19 envoient leurs enfants dans des établissements privés et une seule dans l'établissement public. Et cette seule famille qui envoie son enfant dans l'établissement public dit subir toutes sortes de pressions, etc., pour aller dans l'enseignement privé. Là, j'essaie de retrouver une citation. En même temps, les parents, vu les catégories sociales auxquelles ils appartiennent, vu qu'ils sont interrogés par les sociologues, ils ont un peu des répugnances, c'est-à-dire à quel point ils subissent des effets normatifs. Et donc, ils prennent toujours comme une sorte de recul par rapport à ça, souvent par leur rire, la dérision. J'ai essayé un peu d'étudier ces mécanismes. Je suis en train d'écrire un petit article plutôt de méthodologie pour voir cette forme de prise des distances. Voilà, donc là, c'est une mère qui parle, qui dit, qui habite dans ce quartier, qui dit « Je ne m'étais pas du tout préoccupée de ces choses-là au départ, du choix d'école, et je me suis rendu compte que beaucoup des parents ici avaient déjà pris leurs précautions. Ils avaient mis leurs enfants à Charles Péguy, puis à Passy, à Danielou, ça c'est tous les établissements privés de Rouen, tous les établissements privés. Ici, c'est classique. La plupart des parents font ça, c'est très tendance. » Et là, elle rit pour elle-même se moquer d'elle-même suivant la tendance. Et voilà, on a réussi in extremis à avoir inscription parce que l'école est assez demandée. Voilà, donc elle explique comment étant comme ça, on voit toutes ces pressions normatives et des parents qui disent, voilà, on essaie de me faire des remarques, etc., par rapport à des appels. Il y a des pressions normatives de ce type qui s'exercent parfois au centre de Montreux et au centre de Nanterre, de la part parfois des parents que l'on peut appeler les entrepreneurs de l'école publique, sur lesquels je vais revenir tout de suite, qui eux font une pression normative forte pour l'école publique. Et où les parents qui vont vers le privé, ou qui déménagent, ou qui font le choix d'un autre établissement public, se sentent comme des déserteurs. Ils sont un tout petit peu pointés du doigt, et eux-mêmes adoptent des comportements de retrait. Par exemple, des parents qui disaient, eh bien, maintenant je ne participe plus à l'association des parents d'élèves dans le primaire, parce que comme je n'ai pas envoyé ma fille dans le collège du quartier, je sens que les parents, je ne suis pas très bien vue, donc maintenant, voilà. Donc on voit bien qu'il y a ces pressions normatives du voisinage qui jouent un rôle non négligeable dans les stratégies des parents. Mais il y a aussi un usage plus sélectif du voisinage et dans la façon dont les autres deviennent des dispositifs de jugement. Ça renvoie à ce que je vous disais au départ. La prescription scolaire est faible et elle est souvent perçue comme mensongère pour partie, que ce soit les palmarès, que ce soit les discours des chefs d'établissement. Et donc, on fait surtout confiance à des parents et à des parents dont on conçoit qu'ils soient au plus proche de soi-même, en sachant que soi-même, on est compliqué parce qu'on veut à la fois un bon établissement, mais qu'il soit chaleureux. Donc, on essaie de combiner beaucoup de choses à la fois. Et donc, il y a des parents pour qui c'est un exercice très réflexif, très conscient. Voilà, j'avais oublié un des parents qui les résume le mieux. Il dit, donc, après, nous allons discuter avec d'autres familles. Donc, on est en train de parler du choix de collège, donc on est encore à la fin du semestre. Nous allons discuter avec d'autres familles qui sont passées dans les différents endroits pour savoir un peu, essayer de trouver des enfants qui correspondent à peu près au même type de caractéristiques que les nôtres. Et puis essayer de comparer, de voir si c'est intéressant ou pas. Voilà, ça c'est un parent médecin dans le secteur privé qui parle. Et des parents donc qui vont ajuster énormément le choix de leurs interlocuteurs. Là je vous prends une mère de famille donc, qui est... femme au foyer, mais dont le conjoint est enseignant dans l'enseignement privé. Alors elle est aussi très fine dans son travail de choisir ses prescripteurs. Parfois il suffit d'une ou deux personnes. Par exemple, ce matin, j'ai donné un coup de fil à une personne que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle a un bon jugement. Elle met son enfant à l'école du centre à Nanterre. Alors je lui ai dit, je voudrais changer mes enfants d'école. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a donné son appréciation et je prends ça vraiment comme une appréciation juste. Donc je n'irai pas voir ton si maman. Donc vous voyez, on est dans le choix des prescripteurs des façons très fines en essayant de trouver les parents qui font comme soi. Et c'est dans ce sens que je parlais donc du choix des autres comme ce que font les autres. Pas nécessairement n'importe quels autres, mais les autres que l'on se choisit, soit par les lieux de résidence qu'on a choisis, soit à l'intérieur d'un espace mélangé, comme les quartiers gentrifiés de Montreuil et de Nanterre, les autres que l'on choisit dans cet espace qui sont les plus semblables à soi-même, avec lesquels on interagit. Mais, et ça sera le dernier aspect que j'évoquerai, quand je dis le choix des autres, donc c'est aussi le choix avec les autres, puisque ce que j'ai essayé également de montrer dans mon travail, c'est que les autres sont aussi mobilisés pour construire les stratégies, pour habiliter les stratégies. Ils sont des composantes de la stratégie, non pas seulement des éléments du jugement que l'on peut porter sur les établissements, mais des éléments qui servent à construire les établissements. Parmi ces éléments, il y a les services que peuvent rendre les parents d'avoir des informations sur comment construire des stratégies. Comme je vous le disais tout à l'heure, les établissements sont loin d'être transparents, de donner beaucoup d'informations. Donc il faut souvent chercher ces informations dans le réseau local pour avoir ceux qui l'ont déjà expérimenté. De quelles informations je parle? Par exemple, des parents qui vont aller vers le privé. La plupart des établissements privés qui étaient dans les zones où j'ai travaillé, à Rueil ou à Vincennes, sont des établissements très demandés, extrêmement sélectifs. Et donc, il faut savoir, par exemple, quel est le niveau de sélection. Est-ce qu'ils prennent les enfants à partir, par exemple, à Vincennes, ils les prennent avec 16 de moyenne ou plus. Donc, il y a en plus un test des langues à l'entrée qui sert à départager ce que l'on garde en fait et ce que l'on ne garde pas dans l'établissement. Et pour beaucoup de ces établissements, d'autant plus qu'ils ont des liens privilégiés avec d'autres établissements privés, si l'on vient du public, par exemple dans l'établissement de Vincennes et dans deux des établissements de Rueil, il y a un seul jour pendant lequel peuvent s'inscrire les enfants qui viennent du public. Donc si vous ratez ce jour-là et vous n'êtes pas là à 4h du matin à faire la queue, eh bien voilà, c'est fini, vous ne pouvez pas entrer dans l'établissement. Et il faut que vous soyez, bien sûr, au début de la queue, de préférence, parce que vous êtes en fin de queue. Sauf si votre enfant a 20 de moyenne, vous aurez beaucoup moins de chance. Donc ça, c'est des choses que l'établissement n'affiche pas. L'établissement ne dit pas, il pourrait dire, il faut venir à 4h du matin, c'est pas affiché. Dans le public, c'est encore moins le cas, parce que les établissements privés, comme justement ils doivent développer des arguments pour attirer les parents qui ne leur sont pas affectés pendant l'enseignement public, ils développent eux beaucoup plus de stratégies d'information, en tout cas de promotion de l'établissement. Dans les établissements publics, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est comment on peut faire une dérogation pour venir dans cet établissement. Est-ce qu'il y aura de la place? Par exemple, si l'on veut aller dans le collège qui est réputé le meilleur collège des Rouen, un certain nombre de parents choisissent que leurs enfants fassent russe parce qu'il y a une classe des russes. Donc, comment on fait pour être accepté? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier? Est-ce que c'est seulement qu'il faut inventer un paragraphe sur l'amour du russe, de l'enfant, etc.? Ou faut-il aussi qu'il soit un très bon élève, etc.? Donc, tous les critères pour les classes horaires aménagées en musique, comment faut-il faire? Là, il faut se renseigner très tôt, parce que pour intégrer ces classes au collège, il faut soit avoir été au conservatoire et avoir un certain niveau certifié par le conservatoire, soit avoir été dans des classes musicales à l'école primaire. Donc si vous vous prenez à l'entrée au collège, eh bien, c'est très très tard. Il vaut mieux avoir eu cette information beaucoup plus tôt dans votre réseau local. Donc voilà, on a toutes sortes d'informations qui ne sont pas diffusées. On a aussi parfois la possibilité de construire individuellement avec certains autres des stratégies. Une stratégie qui est régulièrement dénoncée par la presse, elle est très minoritaire, mais elle fascine un peu les journalistes, c'est les fausses adresses. Donc ça existe, les fausses adresses, c'est minoritaire, mais c'est quand même un service d'entraide entre parents. C'est-à-dire, vous prêtez votre adresse à un autre parent qui peut invoquer qu'il habite là où vous habitez pour aller à tel collège. À Paris, ces dernières années, cette stratégie avait pris une telle ampleur, c'est un des endroits où elle commence à avoir une réelle visibilité, les fausses adresses, surtout pour aller au lycée, puisqu'au collège quand même, que l'inspecteur d'académie demandait qu'il ait 3 justificatifs des domiciles et pas un seul, comme par le passé. Donc il faut 3 éléments différents, parce que beaucoup des parents qui faisaient, c'est qu'ils payaient la facture de gaz, les parents en question. D'une certaine façon, ils les remboursaient aussi pour ce petit service, et donc après, ils donnaient la facture du gaz comme certificat de domicile. Donc à Paris, ils ont monté un peu les enchères autour de ça. Et il y a des stratégies plus sophistiquées. Par exemple, si vous voulez que votre enfant aille dans un établissement privé ou public éloigné du secteur, eh bien, il y a de fortes chances souvent que cet enfant résiste, parce que, bien sûr, les enfants, ils ne sont pas ces êtres dociles qui acceptent toujours les choix des parents. Ils disent, voilà, et tous mes copains, ils vont dans le collège, ils sont des notaires, et toi, tu veux que j'aille dans ce collège privé, etc. Donc, il y a des parents qui ont décrit des stratégies, plutôt pour les filles, où ils essayaient de convaincre la meilleure copine, la mère, les parents de la meilleure copine, pour qu'elle utilise la même stratégie. Et comme ça, c'est tout gagnant parce que les enfants vont ensemble dans les transports en commun, donc c'est plus sécuritaire, ou les parents font des tours pour les emmener en voiture, et font les devoirs ensemble, elles sont contentes, elles ne sont pas perdues dans le nouvel établissement, etc. Donc les autres habilitent les stratégies individuelles aussi de cette façon-là. C'est moins fréquent pour les garçons parce que comme ils sont souvent en bande, il faudrait convaincre plus de parents, c'est difficile quand même de le faire. Mais parfois, c'est tous les groupes des parents, par exemple, qui militaient dans l'association FCPE au primaire, qui collectivement envoient tous leurs enfants dans un établissement à l'extérieur du quartier. Et là, c'est une grande opération réussie, parce que les enfants sont très contents et les parents aussi font ça problème. Mais ce dont je voulais également vous parler, c'était des choses qui renvoient davantage à une construction collective. Là, c'est des stratégies individuelles avec quelques autres avec qui on construit des choses. Et là, plutôt à construire du capital social dans les établissements du quartier. Puisque ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, c'est que on tend à opposer, souvent quand on pense choix de l'école, on pense choix du privé, choix du public. On pense moins choix résidentiel, alors que c'est extrêmement important. 2/3 des familles que j'ai interrogées ont dit avoir choisi leur lieu de résidence en fonction de la qualité de l'école. C'est un phénomène tout à fait massif. Mais surtout, on tend à opposer beaucoup, d'un côté les parents qui choisissent, et de l'autre, les parents qui restent. Il y a d'un côté les actifs qui partent et les passifs qui restent, avec souvent une connotation morale qui est ce sont les méchants déserteurs de l'école publique du quartier qui partent et les gentils citoyens qui restent dans l'école du quartier. Et donc j'ai essayé de montrer qu'il est important, comme dans la lignée des travaux d'Albert Hirschman donc sur les stratégies de défection et des prises de parole, de montrer qu'il faut toujours étudier la défection par rapport aux autres stratégies disponibles qui sont la prise des paroles, et que très souvent les gens combinent les deux ou alternent les deux, et en tout cas on ne comprend l'une sans comprendre l'autre au même moment, alors que très souvent en France par exemple dans les travaux sur les parents c'est deux types de travaux assez distincts. D'un côté on s'intéresse à quelques travaux qui s'intéressent au choix d'école, à la stratégie d'évitement des choix, et ceux qui s'intéressent à la participation des parents dans l'école. Mais ce n'est pas les mêmes travaux, donc ça ne se connecte pas avec la littérature très souvent. Donc moi j'ai essayé de montrer que c'est important de s'intéresser aux deux. Pourquoi ? Parce que les parents qui restent, ils sont aussi actifs. Et ils essayent de construire l'école. Alors, parmi ces parents qui restent, il y a tous ceux qui restent qui voulaient partir et qui n'ont pas pu partir. Parce que, donc, d'une certaine façon, ce sont des partants. Parce qu'ils voulaient partir, mais ils n'ont pas pu. Et ils auraient été parmi les partants s'ils avaient pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Eh bien, ils n'avaient pas assez d'argent pour déménager vers une commune plus riche. N'avaient pas d'établissement privé à proximité, ont été rejetés par le privé ou sont totalement idéologiquement opposés au privé. Ils ont fait une demande de dérogation qui n'a pas été acceptée. Voilà. Donc là, on retrouve. Et puis après, il y a ceux qui restent parce qu'ils veulent rester pour tout un ensemble de raisons, pour la proximité de l'établissement, le bonheur de l'enfant, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils restent passifs. Et ils développent des stratégies. Reviennent à construire l'établissement du quartier. C'est-à-dire, il s'est dit, l'établissement du quartier, en tant que tel, il ne convient pas exactement à ce qu'on voudrait faire. Pour toutes sortes de raisons, soit on ne peut pas partir, soit on veut rester, mais même si on veut rester, on pense qu'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voudrait pour nos enfants. Et donc, il développe des stratégies qui reviennent à construire l'établissement du quartier. La première de ces stratégies, et une de celles qui était la plus intéressante à observer, c'est qu'on voit à la croyance dans les faits publics. Puisque comme les parents croient que les facteurs les plus importants pour l'efficacité et la qualité de l'enseignement, c'est le type de public de l'établissement, eh bien leur principale stratégie, de façon très logique, c'est de convaincre d'autres parents comme eux de rester dans l'école du quartier. Soit de les convaincre pour ceux qui sont actifs, et là on trouve souvent des militants, donc des entrepreneurs de l'école publique dont je parlais tout à l'heure, qui vont faire un vrai travail de conviction dans les associations des parents. Ils organisent des réunions, souvent en invitant soit des parents qui sont déjà dans l'établissement en question, par exemple dans le collège, le centre de Nanterre ou de Montreuil, soit les enfants qui sont jugés parmi les plus crédibles. De tous les interlocuteurs, c'est pas les jeunes, c'est les enfants qui sont déjà là et qui peuvent parler de leur expérience d'enfant de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans l'établissement en termes de violence, en termes d'enseignement, etc. Donc ils essayent de convaincre d'autres parents, ou s'ils sont un peu moins actifs et plus passifs, au moins ils posent des questions aux autres pour savoir ce qu'ils font. Et donc vous avez vu dans une des citations que je vous ai lues, il y avait qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'ai demandé à telle famille qu'est-ce que tu vas faire, etc. Les parents s'observent, se regardent, et c'est souvent une activité qu'on voit à l'œil nu à la sortie de l'école primaire. Si vous vous placez à la sortie de l'école primaire dans des écoles où il y a des parents des classes moyennes et supérieures, vous verrez que beaucoup de conversations tournent autour « que feras-tu l'année prochaine ?» Donc pour moi, ça c'est un très bel exemple aussi du caractère très social des choix, qui est à l'opposé du modèle du choix atomisé des économistes, parce que c'est un choix très socialisé. C'est « je choisis ce que tu choisis et je choisis avec toi et comme toi ». Donc il y a cette première dimension qui est très importante, c'est de recruter d'autres parents, donc quelle est la proportion des parents des classes moyennes, avec des seuils qui peuvent être variables selon les parents, de quel est le seuil à partir duquel l'école est viable. Et donc c'est un terme qui intervient souvent, il a des effets des seuils. S'il n'y a que 3 enfants de l'école primaire qui vont à ce collège, eh bien, ça ne sera pas une école viable. S'il y en a 20, ça commence à paraître comme un établissement auquel on veut imaginer d'envoyer son enfant. Mais ça n'en reste pas là. Et les parents développent 2 types de stratégies, une qui est fondée sur la méfiance et l'autre qui est fondée sur la confiance. En tout cas, c'est comme ça que je les ai analysées, en utilisant les travaux sur la confiance d'un certain nombre de sociologues, Lubman, mais également Barber et d'autres sur la confiance. Alors, les dispositifs de méfiance sont « je laisse mon enfant dans ce collège du quartier parce qu'il y a un certain nombre de parents qui ont fait le même choix, mais il faut quand même que je sois extrêmement vigilant ». Et extrêmement vigilant, ça passe par exemple par le fait de militer dans l'association des parents plus pour surveiller ce qui se fait dans l'établissement et surtout à propos de son enfant, et donc si possible être dans le conseil de classe de son enfant, etc. Donc surveiller de plus près et mettre en œuvre des dispositifs de méfiance qui permettent de réagir de façon immédiate. Il y a un incident, immédiatement on intervient, qu'on puisse appeler immédiatement la police, que ce soit pris en charge. Il y a des professeurs qui sont absents, immédiatement on intervient pour qu'il y ait des remplacements, etc. Et surtout on intervient beaucoup pour son enfant, pour attirer l'attention sur son enfant. Donc on va voir beaucoup l'enseignant, on colorise un peu l'enseignant autour de son enfant pour qu'il prête bien attention, il le repère bien, etc. Il ne soit pas un parmi tous.